Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons Anne Toumieux, l'autrice du tout nouveau livre « Dit c'est vrai qu'on peut soigner la Terre », un recueil de 40 questions-réponses pour comprendre l'écologie et surtout l'expliquer aux enfants. Vous l'aurez donc compris, nous avons sollicité Anne pour nous parler de l'écologie pour les enfants. Dans cet épisode, il a donc été question de main dans la terre, d'émerveillement de la nature, de surconsommation et avant tout de reconnexion à notre environnement. Anne nous partage avec beaucoup de bienveillance l'urgence de la situation et surtout un souhait que l'on partage tous, réagir pour offrir un monde viable à nos enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne.
Bonjour.
Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors, nous sommes très contentes de partager cet épisode avec toi aujourd'hui pour parler de l'écologie pour les enfants à l'occasion du livre remarquable que tu viens de sortir aux éditions Le Duc qui s'appelle « Dit, c'est vrai qu'on peut sauver la Terre ».
Soigner.
Alors,
c'est,
si c'est je me trompe pas.
C'est pas exactement la même question.
Soigner.
Soigner la Terre. Sauver, la
ah,
réponse n'est pas exactement la même.
Soigner la Terre, ça commence. Bon bah voilà, qu'on peut soigner la Terre. Si je me trompe pas, tu es maman de 2 enfants.
Mm-hmm.
Et tu as fait un travail de titan en listant 40 questions et réponses que les enfants peuvent poser sur le respect de l'environnement, en y ajoutant des interviews de spécialistes, des anecdotes de tes filles, des checklists concrètes et rapides à mettre en place en famille. Bref, tout ça est un travail incroyable et j'ai hâte que tu nous en parles. Mais avant de nous raconter cette aventure folle, j'aimerais que l'on revienne un peu à ton histoire, que tu nous expliques pourquoi tu t'es intéressée à l'écologie pour les enfants.
Comme tu l'as dit, moi je suis maman, donc déjà quand on a soi-même des enfants et qu'on est un petit peu porté sur la question, nécessairement le lien se fait assez rapidement. Moi j'ai écrit juste avant ça un livre qui s'appelle « J'arrête le plastique », qui était un guide très pratique destiné justement à réduire ou arrêter sa consommation de plastique en famille. Bah, en fait, à chaque fois que j'écris sur un thème, finalement, ça va un peu plus loin. Et là, je me suis simplement rendu compte que le danger est réel, que la crise écologique que l'on vit, en fait, eux, les enfants, la vivront d'une manière bien pire que nous. Nos enfants n'auront pas la même vie que nous, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le point de changer. Ça va à la fois très lentement. Souvent, on dit que les changements ne se font pas assez vite, mais en réalité, tout va très très vite. C'est-à-dire que les changements n'ont jamais été aussi rapides en termes justement de problèmes et de dégradation de l'environnement, et en même temps d'idées et de choses mises en place pour contrer la catastrophe écologique qui se prépare. Donc simplement, quand je pense à mes enfants, je ne peux pas ne pas penser au futur et donc à l'écologie. Voilà.
Et est-ce que tu as toujours eu une conscience écologique ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Oui, je pense qu'on a parfois des prédispositions. En ce qui me concerne, j'étais connue dans la famille pour être une grande amoureuse des animaux. Et d'ailleurs, je ne comprenais pas déjà moi-même comment on pouvait ne pas complètement tomber en pamoison devant un petit lapin. Donc, je pense que j'ai toujours eu ça, que d'autres ne l'avaient pas autour de moi et qu'ensuite j'ai su en réalité la conserver, cette âme d'enfant, c'est-à-dire un mélange de d'amusement et d'émerveillement. Et en parallèle, je crois que ma sensibilité fait que je ne me suis jamais habituée à la violence en général et à la violence du monde et qu'on se fait aussi à nous-mêmes en détruisant ce qui nous entoure.
Et alors, quel regard ont tes enfants à ce sujet ?
Du coup, c'est vrai que on en parle. La conscience écologique, encore une fois, je pense qu'elle est en chacun des enfants avant qu'ils soient un petit peu déformés par la société. Tout simplement, les enfants ont un amour pour la nature et donc les animaux. Ça commence souvent par les animaux. Évidemment, les enfants leur première question ne concerne rarement le nucléaire ou la pollution des sols. Donc, en fait, voilà, souvent c'est les animaux et ils ne peuvent, enfin, mes filles, elles peuvent pas comprendre, par exemple, pourquoi le fils du voisin écrase les fourmis, quoi. Parce que depuis toute petite, moi, quand je vois un animal, quel qu'il soit, regarde la limace, comme elle est belle. Ça commence par là. Donc, le regard, c'est simplement un émerveillement que j'essaye de leur transmettre et de garder vivant chez elles. Voilà.
C'est assez exceptionnel que tu parles de ça parce qu'on, juste avant de te connecter, Sylvie parlait justement de la nécessité de transmettre l'émerveillement de la nature aux enfants. Peut-être que Sylvie, tu veux nous dire un petit mot là-dessus ?
Oui, exactement. Enfin, nous, en fait, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est que la première chose à faire pour éveiller les enfants justement sur l'écologie, sur la protection de la nature, c'était qu'ils s'émerveillent sur la nature, en fait. C'est que plutôt que de leur dire « fais attention à ceci, fais attention à cela ».
Exactement.
« Waouh, c'est tellement beau, c'est tellement, mais même extraordinaire ». C'est pour ça qu'on étudie énormément, par exemple, les cycles de vie avec les métamorphoses, que la nature, elle arrive à faire des choses, mais waouh, extraordinaire, quoi. Et donc, grâce
Absolument.
À ce réveillement, on pense que l'enfant, il aura envie de maintenir tout ça, parce que justement, c'est tellement extraordinaire ce qui se passe. Et moi, je crois vraiment beaucoup, beaucoup à ça, à l'émerveillement, donc aussi par le développement des sens, c'est-à-dire que leur faire sentir, leur faire voir, leur faire entendre, quoi, et voir comme
Absolument.
Ça leur procure des émotions et tout ça, et que grâce à ça, ils vont avoir envie de maintenir tout ça, quoi. Ils ont ce rôle à jouer sur la Terre, quoi, pour maintenir tout ça, quoi. Et c'est pour ça, c'est amusant que vous disiez ça, parce que c'est vraiment...
Et pour nous le rappeler à nous, adultes.
Oui, bien sûr. Ben, en fait, oui, quand on leur présente
parce
tout
que
ça,
nous, on a oublié.
Ouais,
quand
voilà.
je vois des parents, je pense qu'on va se rejoindre, quand je vois des parents qui disent à leurs enfants « mais ne mets pas les mains dans la terre, c'est sale
ouais, ». Bien sûr.
Moi, je veux bien que mes filles, elles se roulent dans la terre, dans le sable, en fait, on s'en fout. Connexion physique et les cinq sens, c'est une connexion qu'on coupe aussi dans la société, comme la connexion avec les émotions. Enfin là, je crois qu'on va s'enflammer très vite sur le début de l'émission, mais je pense qu'on sera d'accord sur tout ça. En fait, tout est lié, c'est le vivant avec un grand V, tout simplement.
Voilà, exactement, exactement. Et le côté extraordinaire de la nature, quoi. C'est extraordinaire. Donc oui, c'est vraiment moi une des façons. Et aussi, ce que disait Stéphanie, c'était aussi une bonne connaissance de tout ça, leur donner le maximum de connaissances là-dessus. Parce que plus ils connaîtront, plus ils auront envie de le maintenir, en fait.
Anne, est-ce qu'il y a autre chose que tu mets en place au quotidien avec tes enfants pour arriver à leur transmettre ce respect de l'environnement ? Alors, je suppose que la liste est très longue, mais peut-être que tu pourrais nous donner quelques exemples.
Pas forcément très longue. On avait parlé des anecdotes. En fait, je vais reprendre cette idée. Au début du livre, dans l'avant-propos, en fait, je parle de cette anecdote de ma fille qui passe devant une boucherie et qui tombe nez à nez à sa hauteur d'enfant sur la vitrine avec un lièvre mort, en fait, hein, mais avec ses poils. Et ça l'a énormément choquée. Et le truc, c'est qu'elle a dit, mais en fait... Pourquoi il le laisse là? Ça peut rendre des enfants très tristes. Donc, il y a un mélange d'empathie, de tout de suite vouloir agir. Donc, on est parti sur une idée de faire un sitting et une manif devant la boucherie. Ensuite, on a discuté, pourquoi pas faire des panneaux. Ah oui, mais en fait, moi, je mange de la viande. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin de mettre en place des choses parce que les parents veulent être très proactif, mais finalement, chaque situation de la vie peut nous amener à avoir des discussions très profondes. C'est aussi ça un peu que raconte le livre, c'est que quand on part d'un tout petit sujet, parfois ça peut aller très loin, les questions des enfants sont vraiment sans détour. Après, moi, forcément, ça a commencé par le plastique et les déchets. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est commencer à faire prendre conscience de la consommation, qui est une des grandes parties du livre et qui est vraiment hyper, hyper importante. Donc, par exemple, moi, ma grande fille, elle m'a très vite dit, ah, mais attends, c'est ce que je disais dans le début du livre sur le plastique aussi, comme quoi, à chaque fois, c'est guidé par mes filles. Merci beaucoup pour l'inspiration. C'est, ah, ben, moi, si c'est ça, je veux plus manger de petits yaourts parce que le pot, il est en plastique et c'est vrai qu'après, ça fait beaucoup de déchets. Les enfants, en fait, on peut tirer un fil et ensuite, ça va très vite. Voilà, mais principalement, et là, je pense qu'on va aussi se retrouver avec vous deux, c'est que ça émane aussi mon approche avec les filles pour l'écologie. Enfin, les filles, mes filles, pas les filles et les garçons, bien sûr, émanent de cette idée d'éducation bienveillante qu'on partage, je crois, toutes les trois. Par exemple, comme on parlait des animaux, nous, on évite de dire qu'un requin ou qu'un loup, c'est méchant. Ou c'est dangereux, oui, mais c'est méchant, non. C'est leur nature de loup ou leur nature de requin. Ce qu'ils font, eux, peut causer du tort à un autre animal, mais ce n'est pas méchant. Donc après, ça amène l'intention. Et voilà, en fait, c'est une approche de respect, en fait, de la nature et de ses rythmes et de ses lois qui, finalement, auxquelles nous, on devrait se plier et non l'inverse.
Bien sûr. Et comment est-ce que tu arrives à gérer leurs potentielles inquiétudes ?
Alors, il n'y a pas encore trop d'inquiétudes pour leur futur. En revanche, donc il n'y a pas de... Là, pour moi, j'ai pas de... je suis pas face à des enfants angoissés, heureusement. En revanche, je sais que, par exemple, la crise du coronavirus a créé de l'angoisse très, très profonde chez des enfants. Et c'est peut-être un peu similaire, parce que là, on parle du futur... lointain, ce que les enfants souvent ne perçoivent pas, ils sont beaucoup dans l'instant. Donc, il faut protéger les parents, on met notre masque pour pas les faire mourir. Enfin, je veux dire, il y a des parents qui projettent des trucs hyper angoissants sur leurs enfants. Toute l'idée justement du livre est d'en parler pour donner des clés et des outils pour que plus tard les enfants puissent réfléchir sans créer d'angoisse, voire en levant justement toute forme de préoccupation, en étant dans l'action. Donc l'idée, c'est vraiment de discuter de chaque petit sujet et finalement de les ouvrir en fait sur le monde sans les culpabiliser.
C'est ça. Et justement, pour revenir à ton livre, quel était ton constat au sujet de la transmission du respect de l'environnement des parents vers les enfants ? Je trouve ton approche hyper intéressante parce que je pense que souvent les parents ne savent pas trop par quel bout prendre le sujet. Et je me demande justement quelle était ta volonté et de quel constat tu étais partie pour te lancer dans ce grand projet.
Bah, finalement, c'est très proche de l'éducation parce que on est souvent dans une approche répressive et culpabilisante pour les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui jette son papier par terre va se faire gronder, mais si on ne lui explique pas que ce papier peut être emmené par les eaux du caniveau jusque dans la mer et qu'un poisson peut le manger, l'enfant va tenter de l'acquérir comme une règle sociale qu'on lui impose. Quand un enfant comprend, finalement, c'est exactement comme un adulte. Quand on comprend, on a envie de faire. Donc, tout simplement, nous, par exemple, après, c'est sur des questions très, très larges qu'aborde le livre, c'est pas évidemment aussi dans un point de détail aussi petit, mais par exemple, on peut tout simplement leur apprendre que on vit dans un monde très confortable et que ce sera pas toujours comme ça. Donc, si demain, par exemple, il n'y a plus tes petits gâteaux préférés au supermarché, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, on va faire un gâteau ensemble, simplement pour leur montrer qu'on peut le faire nous-mêmes. Quand quelque chose est cassé, on va leur montrer qu'on peut le réparer. Et ça passe pas du coup par la culpabilité. En fait, on prépare le terrain, et c'est ce que tout le monde devrait faire, c'est-à-dire tout simplement apprendre à se passer des choses qui peut-être un jour disparaîtront, parce que la société ne pourra pas suivre en fait toute cette technologie dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais qui nous entoure. On vit dans un confort qui est qu'aucune génération n'a jamais connu. Et en fait, ça va décroître à un moment.
Bien sûr. Et surtout, le problème, c'est que du coup, on a complètement peur de l'inconfort, ce que je
trouve
en tant qu'adulte.
Oui, absolument. Alors qu'en fait, et d'ailleurs, il y a des gens, donc j'ai interviewé beaucoup de gens, donc il y a plusieurs personnes qui en parlent. Au contraire, ce qu'on peut considérer comme un inconfort apporte beaucoup plus de satisfaction que le surconfort. C'est-à-dire que si ça rendait heureux de s'acheter des paires de chaussures à gogo et des trucs en plastique, on le saurait puisque tout le monde fait ça. Tout le monde est dans la surconsommation. Or, finalement, on voit sur des exemples de gens qui sont revenus à l'essentiel, qui sont revenus à une vie beaucoup plus simple, qu'il y a une satisfaction de faire la bonne chose, de faire ce qui est bien. Et les enfants sont pareils, avec peut-être même une plus grande propension à changer, parce qu'ils ont peut-être encore moins de mauvaises habitudes. Donc, simplement faire la bonne chose. Et donc, quand on leur explique le papier de sucette et le bâton de la sucette, ils vont être très, très fiers d'aller justement les déposer dans la bonne poubelle. Voilà, il faut en faire une fierté. C'est ça, finalement, la transmission. Tu parlais de transmission. Moi, je voulais faire une Bible, en fait, accessible de 7 à 77 ans, parce que tout est lié. Et une fois qu'on a fait le tour de tous les sujets, on s'en rend compte. C'est flagrant. Il faut pas voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Après, ça peut être encore une fois un fil qu'on tire pour aller sur d'autres sujets. Mais l'idée, en tout cas, du livre, puisque tu me demandais, c'est de prendre ces 40 questions et de se rendre compte que finalement, et les adultes aussi, parce que c'est quand même un livre pour adultes hein, à la base, une fois qu'on a compris, et entre nous, les adultes vont évidemment lire les réponses pour les enfants, ce qui parfois va leur permettre de fixer les connaissances aussi pour eux, parce que le livre est devenu un peu un truc très très technique finalement, hein, c'est vraiment sans langue de bois. Hein. Donc une fois qu'on a lu tout ça, on comprend que tout est lié et que c'est le mode de vie qu'il faut changer, c'est le système.
Et alors justement, tu mentionnes que le contenu est assez technique. Comment est-ce que tu as fait pour produire tout ce contenu? Est-ce que tu as une formation à ce sujet? Comment tu t'y es prise?
Non, bah en fait c'était l'idée de la maison d'édition après le livre sur le plastique de faire un livre plus familial, encore plus familial et plus général. Et vraiment, ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte, mais après coup, parce que je regarde jamais en fait la concurrence sur les livres. J'ai écrit aussi le livre du Lagom qui parlait de le slow life et de la façon de vivre green et écolo et raisonnable et raisonné des Suédois. Et ben c'est pareil, il y a d'autres livres sur le Lagom, je les avais pas regardés. Et là, je me suis rendu compte après coup, quand j'ai eu fait mon sommaire et quand j'ai eu proposé cette approche en 40 questions, qu'il n'y a pas d'autres livres qui fait ça. Il y a des livres pour les enfants, il y a des livres pour les adultes, mais le lien avec un discours, vraiment encore une fois, où tout est dit, il n'y en a pas. Donc je ne sais pas vraiment comment m'est venue cette idée, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça éveille vraiment la curiosité et les parents sont très en demande. Le chantier ensuite, effectivement, m'a un peu dépassé parce que on a des questions extrêmement, extrêmement variées. Donc, je te parle de plancton. Le lendemain, je faisais la question sur le nucléaire. Le surlendemain, les énergies renouvelables, le réchauffement climatique, la forêt amazonienne. Enfin, je veux dire, c'était vraiment le grand écart tous les jours. Et pour m'aider, donc évidemment, j'ai lu énormément de livres qui sont dans la bibliographie à la fin. Et j'ai interviewé des spécialistes et en fait, ben ça a été encore plus précis parce que les gens sont, voilà, quand ils ont des sujets, je sais pas, je pense tout de suite à Guillaume Pitron qui est un spécialiste des métaux rares. Bah, le mec, évidemment, il a écrit un bouquin entier sur les métaux, sur ces métaux que des enfants, justement, de 5 ans, notamment le cobalt, par exemple, ils vont chercher dans les mines au Congo pour mettre dans les appareils électroniques ou les batteries de nos téléphones et de, voilà, enfin, tous ces métaux, par exemple, bah, le type rentre énormément dans le détail. Du coup, je me suis retrouvée moi aussi à aller beaucoup, beaucoup dans le détail. Et rétrospectivement, eh ben, je suis très contente de l'avoir fait parce que les enfants, je pense, sans leur dire, et c'est ça le principe des deux questions, hein, puisque chaque question a deux réponses, une réponse pour les adultes et une réponse pour les enfants. Les enfants peuvent entendre beaucoup plus de choses qu'on ne croit parce qu'en fait, ils sont dans le positif, ils vont tout de suite avoir envie de trouver une solution. Donc, je pense qu'on peut leur dire que oui, quelque part dans le monde, il y a des enfants qui cherchent des métaux pour des appareils que nous, on va peut-être acheter et que du coup, bah, ces appareils, il faut en prendre très, très soin. Il faut pas en changer trop souvent. Il faut les garder le plus longtemps possible, qu'on va pas en changer tout le temps, que faut les recycler, faut essayer parce que il y a quelque chose derrière. C'est ce qu'on appelle aussi l'empreinte cachée. Les pollutions qui sont générées par pas seulement l'utilisation de l'objet, mais sa production en amont aussi et sa dégradation en aval. Je vous ai perdu là.
C'est super intéressant. Ah non, c'est hyper intéressant et je trouve ça génial de aussi que t'apportes l'approche maman aussi à l'écriture de ce livre et le mêler avec des spécialistes, ça donne vraiment une vision à 360 sur le sujet.
C'est ça.
Et alors maintenant je voulais te demander Si tu avais une méthode particulière à préconiser pour tous les enfants qui posent les questions délicates sur l'environnement, donc tu en as déjà un peu parlé, et selon toi, donc si je comprends bien, faut pas avoir peur de dire la vérité, mais sur l'environnement, il y a quand même des questions qui peuvent être très lourdes, comme par exemple qui est responsable du réchauffement climatique ou d'autres questions comme ça, tu as intégré dans le livre. Donc est-ce que selon toi, il faut tout leur dire? Est-ce qu'il y a une méthode particulière dans la communication?
Alors en fait, déjà, ça va évidemment dépendre de l'âge, hein. Ça, spontanément, quand on est parent, on le sait, on s'adresse pas à un enfant de 4 ans comme on s'adresse à un enfant de 10 ans. Après, moi, les questions, parce que les auditeurs le savent pas forcément, mais en fait, les questions, je les ai aussi formulées à deux niveaux. C'est-à-dire que pour « c'est quoi le réchauffement climatique ?», qui peut être une question adulte, l'enfant, enfin moi, j'ai noté en fait les questions de mes filles pendant un an, parce que les mots d'enfant, il n'y a rien de plus vrai. Et ça va être, mais alors ce sera tout le temps l'été, est-ce qu'il faut déménager, est-ce que c'est la faute des humains, mais ceux qui font ça, faut les mettre en prison, ou mais on est en été, il neige en été, mais il est toc-toc le ciel. Voilà, des questions comme ça. Donc la formulation donne aussi des pistes de réponse. Faut répondre en fait à la hauteur de la question. Comme tu disais tout à l'heure, s'il y a de l'angoisse, bah on va répondre de manière à faire baisser l'angoisse. S'il y a de la curiosité, on va donner des détails. Globalement, la manière de faire pour moi, c'est de dire la vérité en adaptant non pas donc le fond, mais plutôt la forme. Et c'est ça qui est fait dans les questions, c'est-à-dire par exemple en prenant des métaphores, en prenant des exemples très concrets. Et ils sont capables de l'entendre, hein, vraiment. Ça peut être au supermarché, par exemple, parler de boycott en disant, bah tu vois, ce produit-là, il y a de l'huile de palme. L'huile de palme, elle est récoltée à tel endroit. On rase la forêt pour ça. Tu sais, dans la forêt, bah il y a des animaux qui vivent, les orang-outans. Alors du coup, on coupe l'arbre. Bah c'est la maison de l'orang-outan. Donc, bah je peux vous dire que moi, ma fille maintenant. Il n'y a pas moyen d'acheter quoi que ce soit avec de l'huile de palme, on se fait engueuler. Donc finalement, les exemples concrets, des métaphores, et puis passer par les objets du quotidien et leur montrer, et ça, je pense que vous serez toutes les deux d'accord, pareil, hein, dans cette idée un peu Montessori, un peu bienveillante, c'est galvanisant. On sait que l'enfant a envie, souvent, d'avoir le contrôle selon les stades auxquels il est. Bah, leur donner le pouvoir de choisir, les enfants comprennent finalement beaucoup plus vite et utilisent beaucoup plus vite leur pouvoir de dire « mais attends, moi je donne pas mon argent à des gens qui font mourir les orang-outans, donc tu reposes ce truc et tu prends celui qui est sans huile de palme ». Alors même que les adultes n'ont pas encore complètement saisi, pour la plupart, le pouvoir qu'il y a dans notre porte-monnaie et que en fait, reposer un produit qui appartient à une corporation qui est néfaste, eh ben, bon, je vais essayer de pas les citer, je vais me retenir, finalement, c'est un bulletin de vote qui est malheureusement bien plus puissant que le bulletin de vote qu'on met dans l'urne pendant les élections, quoi.
Bien sûr.
C'est vraiment, et ça, l'enfant l'a bien compris.
Alors l'enfant, en effet, il a ce pouvoir, et aussi ce que je trouve, c'est que l'enfant a une empathie naturelle qui disparaît avec l'âge adulte. On dirait, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais l'enfant. Semble beaucoup plus empathique par rapport à l'environnement qui l'entoure. Je ne sais pas ce que tu penses à ce sujet.
Ah bah ça, ta maman, je crois, est spécialiste de tout ça. L'empathie naturelle des enfants, on le sait, en fait, quand on se penche un petit peu, encore une fois, sur ce qu'on appelle l'éducation bienveillante, qui est tout simplement une éducation où on va entendre l'enfant, écouter ses besoins. Et quand on observe l'enfant pour ce faire, on s'aperçoit bien qu'il a envie d'aider. Hein, les gens qui pensent que l'enfant doit être éduqué, presque rééduqué, ils ont tout faux. En fait, l'enfant, il va naturellement dans le bon sens, il faut juste l'accompagner. Sauf que précisément, et ça c'est une fracture, une rupture qui sera d'ailleurs le sujet de mon prochain livre, c'est qu'en fait justement, le système que l'on subit comme vie au quotidien nous met en rupture avec nos enfants, puisque précisément, ben, on n'a pas le temps de regarder, on n'a pas le temps de faire attention, alors que l'enfant, lui, il est dans un espace-temps qui est donc très différent du nôtre. Plus ils sont petits, évidemment, plus c'est vrai. Donc lui, tout simplement, son empathie, il va vouloir aider, il va vouloir bien faire, pour peu qu'on le prenne par la main et qu'on le laisse faire. Donc effectivement, clairement, cette empathie, nous, la société nous empêche presque de continuer à l'avoir. D'abord parce que la société est tellement atroce et ce qui nous entoure est tellement atroce, pardon. Je veux pas casser l'ambiance, mais enfin bon, moi quand je suis sur beaucoup des problématiques de violences faites aux femmes, de violences faites aux enfants, d'inceste et compagnie, l'empathie, enfin on se blinde naturellement parce que c'est tellement dur de voir ces choses-là que l'adulte aussi. Moi souvent on me demande mais comment tu fais pour te plonger dans des dossiers comme ça, etc. Effectivement, il faut se blinder. Donc il y a un mélange de choses qui fait que si on n'est pas prudent en tant qu'adulte, on perd ça en route. Or, je pense que c'est justement au moment où le fric prend la place de l'empathie que tout est perdu, puisqu'on se rend bien compte que la majorité des problèmes écologiques viennent malheureusement de la société de consommation qui est directement liée au business, à l'argent et au fait que faire du profit passe avant la protection de l'environnement, ce qui est bien évidemment une connerie complète, puisque quand il n'y aura plus d'environnement, ça servira à quoi d'avoir les poches pleines de billets? C'est-à-dire que si les Saoudiens, sûr. À un moment, quand il fera 70 degrés, je veux dire, ils pourront pas climatiser non plus la stratosphère. Donc à un moment, ça passe en premier et ça devrait passer en premier. Et toutes les politiques devraient parler d'écologie en premier parce que malheureusement, encore une fois, je veux pas casser l'ambiance, mais la vérité, c'est ça, c'est qu'à moyen terme, il y a quand même une grosse, grosse catastrophe écologique qui se prépare. Alors nous, on est chanceux, on sera pas les premiers impactés, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ailleurs dans le monde vont être très, très fortement impactés.
C'est ça. Et surtout, je pense qu'il y a un réel problème chez les adultes, c'est qu'il y a une déconnexion complète avec la nature. En fait, on se rend plus compte qu'on doit vivre avec elle. Ça qui est terrible.
Exactement. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, tu sais, c'est les Parisiens qui vont en week-end. Oh, puis tu les vois sur Instagram, mais moi la première. Oh là là, ça fait du bien, machin. Tu vois, ou pendant le confinement, oh, regardez le ciel, regardez. Tu vois, on sait que fréquenter, entre guillemets, la nature, ça fait du bien. On en a besoin. Et effectivement, quand plus on est coupé, donc des sens, on parlait tout à l'heure des sens, mais nous aussi, on devrait se rouler dans le sable, nager tout nu dans la mer et ne le faites pas. Hein, je ne veux pas être responsable de catastrophe sur la Côte d'Azur et de scandale. Mais tu vois, mettre les mains dans la terre, moi, si je suis angoissée, franchement, il n'y a rien de plus... Enfin, qui me détend le plus que de me mettre à rempoter mes petites fleurs. C'est ridicule. Enfin, c'est ridicule dans le sens où c'est pas un acte... Voilà, mais la simplicité et le retour à cette simplicité apportent tellement de satisfaction. Et un jour, encore une fois, peut-être déjà nos enfants d'ici 60 ans, ils seront peut-être obligés, parce que les problèmes de gestion de l'énergie, les problèmes économiques vont nous rattraper. C'est le problème des ressources, du pétrole, sans vouloir aller trop dans le détail, vous pourrez le lire dans le livre si ça vous intéresse, vont nous confronter à donc cette raréfaction des ressources. Ça peut faire changer nos vies quotidiennes. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûre aujourd'hui que mes filles prendront l'avion comme moi j'ai pris l'avion, rechargeront leur téléphone comme nous on recharge notre téléphone, brancheront un truc ou allumeront la lumière comme nous on le fait aujourd'hui. Et donc si on est l'idée de se connecter à la nature, l'idée de revenir à une vie plus simple aujourd'hui, sans attendre qu'on y soit obligé, c'est tout simplement pour se préparer à si un jour il n'y a plus. Parce que c'est pareil, on passe au tout électrique, par exemple. On sait que, je crois que c'est en Suède, ils sont tellement passés à l'électrique, avec les voitures électriques, entre autres, que, à un moment, il y a eu des blackouts. Parce qu'il n'y avait plus assez d'électricité. Donc, qu'est-ce qui se passe si les supermarchés, si à un moment, il y a une pénurie d'essence et que dans les supermarchés, il y a des rayons qui sont plus approvisionnés parce qu'il n'y a plus d'essence. Qu'est-ce qui se passe? T'es capable ou t'es pas capable de faire un gâteau? T'es capable ou t'es pas capable de faire pousser des tomates? Voilà. Après, ça peut être un peu angoissant d'y réfléchir comme ça, mais je pense que plus on agit et plus on se détache finalement du matériel aujourd'hui, moins l'angoisse est grande, justement, face à cette éco-anxiété dont on parle beaucoup. Et dès qu'on est dans l'action, en tout cas, ces préoccupations diminuent. Donc, c'est vraiment aussi pour ça qu'il y a une cinquième partie dans le livre sur les actions à mettre en place.
Ouais. Et est-ce que tu trouves que l'école remplit suffisamment son rôle à ce sujet? Question vaste.
C'est une très, très vaste question parce que je crois que... Alors, déjà, enfin, tu vois, de quelle école on parle? Tu parles d'école publique, tu parles d'école privée, tu parles d'école Montessori. Tu vois, enfin, je veux dire... L'école, en tout cas si on parle d'école publique dans sa généralité, je crois qu'elle est dépassée aujourd'hui par ce qu'on attend d'elle. Les enseignants sont extrêmement maltraités. L'éducation nationale, c'est mon avis, fait globalement quand même n'importe quoi. C'est voilà. Enfin, moi, si j'étais présidente, demain, tout l'argent irait à l'éducation et à la santé. Hein. Et puis, c'est là que tu vois, dans une crise, tu t'aperçois qu'en fait, les deux sont quand même des piliers qu'on a bien bien grattés pour économiser et qu'en fait, ça peut pas marcher. Donc, c'est pas l'école. Enfin, tu vois, c'est tout le système qu'il faut revoir. Je crois malheureusement que l'école a d'autres missions à plus court terme, si tu veux. Enfin, tu vois, c'est important que les enfants sortent de sixième en sachant ou arrivent en sixième en sachant bien lire. Enfin, tu vois, quand tu vois qu'il y en a plein qui dont c'est pas le cas et que malheureusement l'écologie reste le parent pauvre de tout ça, bah du coup on peut agir à titre individuel. Moi, je propose dans les écoles de mes filles des ateliers sur le plastique. Alors, tu vois, j'arrive avec un sac en papier, un sac en tissu, un sac en plastique, voilà, pour faire de la prévention. Et ça, toutes les mamans qui nous écoutent peuvent le faire et le proposer. Oui, je pense qu'il faut aussi, on peut pas se substituer à l'école. Je pense que l'école doit changer, mais on peut toujours à notre niveau soutenir l'école de la même manière qu'on peut soutenir des associations qui nous entourent. Voilà, si on en a envie.
Ouais, c'est juste que je me demandais si dans un monde idéal, est-ce qu'on pourrait pas justement créer une matière obligatoire autour de l'environnement, la nature, l'écologie dès le plus jeune âge pour revenir justement à ce qu'on disait sur l'émerveillement de la nature. Il y a tellement de choses à apprendre sur la nature, je trouve.
Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un peu en route. Enfin, tu vois, on voit quand même qu'il y a des choses qui bougent, mais ça vient toujours des particuliers. Tu vois, je pense par exemple au fait que les manuels de biologie qui montraient le sexe féminin d'une manière extrêmement simplifiée et qui maintenant vont pouvoir montrer le clitoris dans toute sa splendeur, ça fait partie de la nature, la biologie, son corps, tu vois, le consentement. Enfin, finalement, tout est assez lié. Après, une réforme de l'école sur... Enfin, évidemment, il faudrait des matières qui soient plus modernes, entre guillemets, sur justement tous ces sujets-là. Mais est-ce qu'on est prêt? Moi, je m'aperçois que parfois, je suis un peu naïve et que je crois que tout le monde est un peu, alors pas forcément un peu révolutionnaire comme moi, mais que tout le monde a envie. Et puis, en fait, tu te rends compte en étant parent élu que, par exemple, que non, tout le monde ne suit pas. C'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui s'en fichent complètement, je veux dire, au niveau des parents. Donc, si tu veux, c'est compliqué. Après, encore une fois, je pense qu'on est dans un monde qui change, qui bascule même, que tu vois, il y a par exemple pas mal de livres qui sont en train d'être enlevés des écoles où on voyait des violences éducatives ordinaires. Tu sais, les fameux livres où, par exemple, à un moment, tu tombes sur une phrase qui te hérisse le poil, où il y a marqué « Ah, Juliette n'est pas sage, elle va avoir une bonne fessée ». Et toi, t'es là « Quoi ? Une bonne fessée ? Mais ça n'existe pas, mais de quoi on parle ?» Et donc, tu vois, hop, le livre, il va disparaître petit à petit. Donc oui, bien sûr, à l'école, il faudrait ça. Oui, il faudrait ça. Mais tu vois, si c'était dans mes mains, oui.
Il y a tellement de choses à faire, de toute façon, à ce sujet. Tu as parlé tout à l'heure des listes d'actions utiles à mettre en place à la maison. J'aimerais bien que tu nous en parles parce que je trouve ça hyper concret. Et alors, nous, avec Sylvie, on adore tout ce qui est concret. Que tu nous dises un petit peu plus. Peut-être que tu peux nous parler d'un exemple ou quelque chose comme ça.
Il y a effectivement différents tutos en fait dans le livre. Ça peut aller de faire son compost à alors attends parce que je regarde. En fait, si tu veux, il y a une liste d'actions qui explique déjà par exemple comment gérer la pollution numérique, comment économiser l'eau, comment réparer les objets en panne, manger moins de viande. Tu vois, ça c'est des petites actions, c'est pas des tutos. C'est des petites actions. Donc là, il y a beaucoup de listes. Et puis à la fin, effectivement, dans les tutos, ça va être comment organiser une campagne zéro mégot, par exemple, ou zéro déchet. Et donc là, en fait, c'est plus le côté presque militant que je veux réveiller chez les gens. Parce que finalement, les petites actions, on trouve ces idées-là un peu partout. Mais il y a une idée de militantisme à faire en famille. C'est-à-dire que, un jour, tu prends des sacs poubelles, tu prends des gants, tu réunis tes voisins et tes amis et tu te promènes pendant 2 heures dans ton quartier et tu ramasses tout ce que tu trouves par terre. Donner l'exemple. Les enfants apprennent par l'exemple. On le sait très bien. Donc si chez toi, tu te mets à manger plus de pois chiches que de steak, voilà, ils le voient et que après tu peux leur expliquer pourquoi tu fais ce choix. Tu vois, après il y avait par exemple faire un potager comme tuto. Alors bon, évidemment tout le monde n'a pas un jardin, moi la première, mais simplement pour expliquer que on n'a pas besoin de dépendre des magasins. Donc encore une fois, mettre un petit peu d'espace entre les familles et la consommation. Moi, ce qui me désole actuellement avec cette crise sanitaire, c'est précisément qu'en ce moment, je ne sais pas quoi faire d'autre avec mes enfants que de leur proposer des choses liées à la consommation. Tu sais, quand tu peux plus faire un petit théâtre, un petit cinéma, les parcs à un moment étaient fermés, la seule chose que tu avais le droit de faire, c'était de consommer. Mais moi, ça me donne envie de vomir. Enfin, tu vois, je veux dire, quel est le message? Moi, ça m'a frappé, tu vois, dans cette crise. Tu as juste le droit de consommer. Donc, la sortie pendant le confinement, c'était d'aller acheter un truc. Mais quelle horreur! Voilà, si tu es conscient de ça, tu trouves aussi des alternatives. Ça peut être faire un compost, par exemple. Faire un compost, c'est pas nécessairement, c'est un autre des tutos du bouquin, c'est pas nécessairement utile parce que dans le sens où ta peau de banane, elle va changer la face du monde si tu la mets dans la terre. Mais par contre, ça peut engager, encore une fois, et c'est tout l'objet du livre, la discussion sur les déchets, sur mais est-ce que tu sais que où ça va ensuite quand on met le déchet à la poubelle? Est-ce que tu sais où il va? Ah bah dans le camion vert. Oui, d'accord. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et puis simplement de, tu vois, de déconstruire aussi des choses et surtout vraiment de montrer qu'on peut être indépendant et que par exemple l'argent, c'est un thème que tous les parents n'abordent pas avec les enfants. Et je crois que c'est très lié à l'écologie de dire moi je préfère. Je dis bah chérie non, je vais pas t'acheter ce machin là. Je préfère qu'on garde notre argent pour peut-être je sais pas moi louer une maison et passer quelques jours hors de Paris. Tu vois voilà. C'est aussi ce genre de discussion là qui crée des déclics. Parce que les enfants sont, malgré nous, malgré des parents très investis, dans la consommation. Et encore, tu vois, moi, chez moi, il n'y a pas de télé. Il n'y a pas eu de télé. Pour moi, c'était une évidence. Parce que quand il y a la télé, bah, bêtement, tu l'allumes, après, elle est en fond sonore. Enfin, bon, il n'y a pas besoin. Et encore, c'est pas un truc anti-écran à fond. Moi, les filles, elles regardent pas mal de dessins animés. Mais en revanche, on les choisit. Elles sont pas parasitées par des pubs. Elles sont pas parasitées par des news. Elles voient pas en fond sonore. Elles entendent pas les infos atroces. Et donc, cette histoire de consommation, je crois que c'est quand même vraiment très, très central.
Ouais, ouais. C'est sûr. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Anne. On arrive déjà à la fin de cet entretien, donc je vais te poser juste une toute dernière question. Est-ce que tu aurais d'autres projets à nous partager que tu vas faire autour de l'écologie et des enfants cette année, dans des années à venir, des rêves, voilà, des choses à nous partager sur ton avenir et l'écologie pour les enfants?
Alors, moi, donc, je fais des ateliers que je vais donc que je fais dans, tout simplement à mon niveau dans l'école de ma fille. Voilà, je propose pas que à la maîtresse qui est la sienne, mais à d'autres. Et puis je vais le faire dans d'autres écoles avec des il y a différentes personnes qui m'ont approché pour faire ça. C'est assez facile en fait à faire. Et là où je sens la petite question, je pense savoir d'où elle vient. C'est parce que tout à l'heure tu as entendu que je disais mon prochain livre, peut-être. C'est quelque chose dont d'ailleurs j'ai pas encore vraiment parlé. Enfin, autour de moi j'en parle, mais c'est pas du tout annoncé. Mais c'est un livre qui est un concept qui est le mien. Disons que c'est pas une maison d'édition qui est venue vers moi pour ça. C'est un livre qui traitera de la maternité. Et finalement, c'est l'aboutissement logique de tout ça, tu vois. J'ai commencé par le lagom, donc slow life, machin. Ensuite, le plastique. Maintenant, un peu dans le dur avec ces questions sur l'écologie. Et finalement, écologie, c'est aussi l'écologie du corps, le fait que l'homme est un mammifère. Se reconnecter, enfin, tu vois, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, finalement, se rendre compte qu'on est en complet décalage avec nos enfants, parce que la plupart du temps, les enfants, surtout très jeunes, sont dans des mécanismes, finalement, de survie, des réflexes assez archaïques, que toi, t'es en mode 2021, sauf que l'enfant, il est un peu en mode dans la caverne. Quand il naît, c'est le même, en fait. C'est le même petit homme qu'il y a des milliers d'années. Et du coup, on est vraiment dans un décalage et on se rend compte qu'il y a un malaise chez les parents qui aimeraient se reconnecter à ça, qui sentent le besoin de leur enfant dans justement des comportements plus animaux, des comportements, tu vois, on parle de cododo, l'allaitement, tout ça. Ça revient énormément et on sent qu'il y a un malaise. Et donc, je voudrais écrire ce livre, qui est déjà en partie un petit peu avancé, sur comment réconcilier finalement ces instincts-là qui ne peuvent que nous reconnecter à nous-mêmes et au monde et à l'univers presque. Et puis la société, j'ai un peu envie de dire, un peu de merde dans laquelle nous vivons, pardon. Voilà. Mais il faut que j'arrête de parler parce que je vais tout vous dire et c'est encore complètement... Je me suis fait là.
Et surtout, on va te réinviter quand tu le sortiras pour que tu nous réexpliques tout ça. Ça a l'air passionnant. Merci mille fois, ouais. Anne.
Mais bon, pour l'instant déjà, essayons un peu passionnant. De changer un petit peu nos habitudes.
Voilà, c'est un super message que tu portes et on est fiers de le mettre en avant dans les adultes de demain. Donc merci beaucoup pour ton temps.
Merci à toi, merci de m'avoir écouté.
On partagera ton livre sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est une mine d'or.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup.
À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les adultes de demain.